Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, bienvenue sur Bretagne 5, Michel Philippot. La plume est à vous. Eh bien, je suis heureux de vous retrouver ce soir, de retrouver notre émission après les rediffusions de ces deux derniers dimanches. Des rediffusions, comme vous vous en doutez, dues à cette situation d'exception et à ce confinement que nous sommes nombreux à vivre et qui ne permet pas les déplacements nécessaires en studio. C'est donc dans le respect des règles de confinement que cette émission a pu voir le jour grâce en particulier au formidable travail de montage accompli par Frédéric Guyon, mon réalisateur, auquel je rends hommage et qui, dans des conditions particulièrement difficiles, a réalisé cette émission avec le talent qu'on lui connaît. Qu'il en soit ici sincèrement et amicalement remercié. Pardonnez également, chères auditrices et chers auditeurs, d'éventuelles imperfections. La qualité des équipements dont je dispose ici, à la maison, au coin de ma table de salon, n'étant évidemment pas comparable techniquement aux équipements de nos studios. Indulgence donc. Un seul objectif, vous distraire en ces temps si particuliers. Et tout de suite, cette nouvelle, Violette, écrite par Sigrid Morgantini. Sigrid Morgantini est comédienne professionnelle depuis plus de 30 ans. Très présente sur la scène lyonnaise, elle le fut aussi en son temps au Festival d'Avignon. Fondatrice dans les années 90, dans la région lyonnaise précisément, de l'association Drama, centre de formation et d'expression personnelle, elle a consacré de nombreuses années au théâtre, à la mise en scène, au conte et à la transmission de son art. L'écriture fait aussi partie désormais des talents de Sigrid Morgantini, qui nous livre ce soir, dans cette histoire, belle, étrange, sensible et pleine de pudeur, avec ce titre que j'annonçais, Violette.
J'ai touché le fond de la piscine dans le petit pull marine, tout déchiré au coude que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y'a pas qu'au fond de la piscine que mes yeux sont bleu marine. Tu les avais repérés sans qu'il y ait un regard et t'avais appliqué. Maintenant je paie l'effet retard. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond.
Toute ressemblance avec des personnes existantes ne serait que le fruit de l'imagination du lecteur. La piscine, sans même le petit pull bleu marine, seule, abandonnée, traqueuse. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. Ah, la voix magnifique de la star. Violette se dit que c'est bien peu, une malheureuse paire d'yeux de la même couleur que ceux d'Adjani, pour lutter contre le désarroi qui l'écrase. Violette est assise dans un gros fauteuil de cuir face à Monsieur Masneau. Le bureau de Monsieur Masneau est à son image, sobre, élégant, cossu. Violette a déjà repoussé ses cheveux à l'arrière de ses épaules, tout sauté deux fois, installé son sac sur ses genoux, mais maintenant, il va falloir prendre la parole. elle ne peut pas se dérober. Je vous remercie de m'avoir finalement accordé ce rendez-vous. Monsieur Masneau sourit. Son sourire est celui de l'homme mûr qui accepte de s'être laissé piéger par une jeunesse. Oui, je dois dire, mademoiselle, que vous m'avez beaucoup intriguée. Vous êtes toujours aussi insistante. Violette pique un phare et Monsieur Masneau enchaîne, tout heureux, du rouge sur son visage. Vous frôliez les limites de la décence, jeune demoiselle. Je dois dire également que les gens que je reçois habituellement ne m'attendent que très rarement, en fait jamais, en bas de chez moi à 7h30 du matin. Vous attendiez depuis longtemps ? Flashback. Violette se revoit petite, à 4 ou 5 ans, sur le bord du grand bain de la piscine, ne parvenant pas à se décider à plonger. Sa mère exécute plongeon sur plongeon comme pour l'amener à s'y résoudre, sans la convaincre le moins du monde. Aujourd'hui, elle est là, adulte, toute seule, dans le bureau de ce monsieur Masneau, et il va bien falloir qu'elle tente de se surpasser. Un saut de l'ange, un saut périlleux, peut-être. Je guettais depuis 3 jours l'heure de votre départ. Je n'ai pas osé vous aborder le premier, ni le deuxième jour. Vous aviez été tellement... Violette cherche le mot qui ne soit pas vexant et qui lui permettrait de s'expliquer. Ne trouve pas, jette au vol. Vous aviez été tellement expéditif dans votre refus au téléphone. Aussitôt, elle se mord les lèvres et le rouge de son visage vire au cramoisi. Le mot a mal ricoché. Monsieur Masneau n'a pas cessé de sourire, mais le petit geste débonnaire de sa main droite signifie qu'il prend note, au passage, de ce manque de vocabulaire. Mauvais. Oh, c'est mauvais, ça démarre mal, sa folle Violette. Monsieur Masneau, lui, semble s'amuser de son trouble. Vous savez, mademoiselle, les auteurs, les agents également d'ailleurs, sont toujours persuadés qu'ils ont en poche le manuscrit du siècle et leur propension à ne pouvoir attendre pour le présenter ne se justifie que rarement. Je dois dire que j'ai très peu de temps à vous consacrer, mademoiselle. Je vous écoute. Parlez de moi, de votre livre. Allez droit au but, se raisonne Violette. Il faut aller droit au but. Je dois aller droit au but. Ce n'est pas mon livre, monsieur. Monsieur Masneau soupire insensiblement et son regard exprime une imperceptible surprise. Cette petite l'a bluffé. Il aurait juré que... Monsieur Masneau ressent une légère baisse dans la maîtrise de la situation. Il faut redresser la barre. J'aurais cru. Dans ce cas, mademoiselle, je dois dire que vous vous y prenez assez mal dans votre début de carrière d'agent littéraire. Enfin, pourquoi pas ? Allons-y. Vous êtes l'égérie de l'homme que vous aimez passionnément, un sauvage doué pour l'écriture, un talent qui s'ignore, et vous avez décidé de prendre en charge la plume de cet homme des bois. Ou peut-être avez-vous une sœur jumelle qui a le don, alors que vous-même possédez le côté relations publiques. Dans ce cas, vous n'avez pas l'air très en verve aujourd'hui. Allez-y, je vous écoute, mademoiselle. les quatre murs de ce bureau ont entendu bien pire que tout ce que vous pourrez me raconter. Je dois dire que vous êtes surprenante, mademoiselle. Mademoiselle... Les mots cinglants de cet homme laissent Violette bouche ouverte. Elle ne se rend pas compte que M. Masneau lui demande son nom. Elle se hâte de fermer la bouche, de serrer les lèvres, de les mordre très fort et s'entend formuler malgré elle, tout en paniquant et en se traitant d'idiote. « Vous dites souvent, monsieur, je dois dire que... » Le sourire de M. Masneau se transforme en un léger rictus. Ah, la biche veut jouer avec le loup, soit. Préparons la curée, se dit-il. Oh, mademoiselle, vous n'irez pas très loin sur le registre de l'insolence. Je vous... Violette sent une décharge de 220 volts la traverser. Non, 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 ne pas se fourvoyer. Très vite, avant qu'il ne soit trop tard dans ce quipergagne, Violette coupe la parole à M. Masneau. « Non, 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 ça n'est pas ça. Pas du tout, monsieur. Je crève de peur, c'est tout. Je faisais simplement une association d'idées. » Pourquoi dit-elle cela ? En un quart de seconde, elle prend conscience qu'elle le dit parce que c'est vrai. Monsieur Masneau inspire profondément. Il maîtrise les variations imprévisibles du stress afférentes au relationnel difficile. Cela fait partie de son métier. Il a ainsi découvert plus d'une perle rare. Il va assumer la situation. Il allonge ses jambes sous le bureau et de nouveau, avec beaucoup de pondération, il continue. « je vois, bon, alors, soyez un peu moins émotive, mademoiselle, et plus efficace. Pensez à la personne que vous représentez et essayez de faire valoir son manuscrit. Je vous écoute. » Une image de mer, de soleil, de croisière en Turquie, de vacances un peu folles avec sa mère surgit instantanément de la mémoire de Violette. « C'est ma mère qui a écrit ce manuscrit, monsieur. » Monsieur Masneau hausse légèrement le sourcil gauche, signe de grande contrariété chez lui. Pressant une histoire de tante germaine provinciale qui n'augure rien de bon, regrette presque de s'être laissé convaincre par l'insistance de cette jeune fille au regard bizarre. Il a déjà connu l'inverse, des mères ou des pères cherchant à caser leur enfant. Il a même rencontré ce cas de figure plusieurs fois, avec des écrivains maison. Mais une fille qui vient vendre sa mère, ça c'est une première. Monsieur Masneau espère qu'il ne va pas avoir droit à une tranche style veillée des chaumières. Il a horreur de ça. Diplomatie. Oui. Mais dites-moi, vous ne pensez pas que votre mère serait plus... on va dire plus à même, oui c'est cela, plus à même de s'exprimer sur ce qu'elle a écrit. Vous savez, je dois dire qu'au stade d'un premier ouvrage, le contact avec l'auteur est primordial, et votre mère, une décharge encore plus forte pousse Violette à parler comme on se jette à l'eau en cas de naufrage. Elle est morte, monsieur. Quel est ce procédé alchimique très puissant, magique, qui submerge M. Masneau et l'échange qu'il est en train de vivre, telle une tempête, avec cette petite fille au regard marin violet. Violette, pourtant, n'a rien explicité, mais M. Masneau appartient au clan de ceux qui ont le nez long, de ceux qui savent flairer l'authenticité, reconnaître le vrai, l'important. Il a mené suffisamment de guerres contre le factice pour identifier et surtout respecter ce qu'il ressent de manière diffuse, mais profondément. Monsieur Masneau hésite, s'accorde un instant d'expectative. Puis il décide d'enfiler son costume de bain. Il s'en voudrait de jouer au héros, aller repêcher cette petite en costume trois pièces ne le tente pas. Le voilà donc en bermuda rayée, bleu et blanc, et cette tenue inhabituelle le déconcerte un peu. C'est qu'il ne sait pas comment s'y prendre pour rentrer dans l'eau. Il n'est pas question de plonger, mais de trouver le moyen de pénétrer dans cet élément liquide sans éclaboussure, sans faire trop de vagues. La petite fille, au regard d'océan, attend piteusement qu'il vienne jusqu'à elle. « Je suis désolé, mademoiselle. Je suis, voyez-vous, un peu stressé en ce moment. Je dois dire aussi que je me suis senti un peu agressé par votre façon de faire. À tort. Je me suis trompé. Cela m'arrive rarement. Mais cela m'arrive comme à tout le monde. Vraiment, je suis le... Prenez votre temps, mademoiselle. Mademoiselle... Violette ne comprend toujours pas qu'il lui demande son nom. Pardon ? Quel est votre nom ? Quel est votre prénom ? Ah ! Violette. Violette Rhode. Encouragée par les évolutions aquatiques précautionneuses de M. Masneau, Violette se coule dans l'eau, puis refait surface. Ma mère, elle aussi, disait souvent, très souvent, « Je ne comprends pas. Excusez-moi pour tout à l'heure, c'est à ça que je pensais quand je vous ai dit que vous, vous répétez souvent « je dois dire ». Ils sont dans le même bain tous les deux maintenant, ni le grand bain, ni la pataugeoire des enfants. Non, le gros canard de Barbarie, le petit caneton déplumé, ça barbote assez maladroitement pour des palmipèdes, mais il s'agit avant tout de ne pas perdre pied. Je comprends, Violette. Vous permettez que je vous appelle Violette? Oui, bien sûr. Quelques gouttes bleues au bord des cils, Violette esquisse un pauvre sourire. Excusez-moi, je m'étais promis de ne pas pleurer. Et voilà, vous me dites, vous permettez, et j'ai les larmes aux yeux. Ah, c'est trop bête. Non, Violette, non. Je comprends. J'ai beau être un ours, je sais encore mesurer l'impact d'une émotion légitime. Oui, je dois dire que... Vous voyez, je dois dire. Mais vous préférez peut-être revenir une autre fois, à un autre moment. Mais non, c'est absurde. Je vois bien que vous avez misé, si je puis m'exprimer ainsi, que vous avez misé beaucoup sur cet instant. Monsieur Masneau est à peu près aussi à l'aise dans ce bain à remous glacé qu'un pingouin sur une piste de danse. Mais il faut bien trouver le moyen de se mouvoir en paraissant le moins grotesque possible. D'un geste très décidé, il appuie sur le bouton de l'interphone qui se trouve sur son bureau. Mademoiselle, oui, annulez le rendez-vous suivant, je vous prie.
Oui, non, cela ne fait rien. Annulez-le. Merci.
Violette se sent soudain beaucoup mieux. Elle s'essuie les yeux d'un revers de main. Un sourire minable, mais bouleversant, tente de traduire son effort de bonne volonté. Reconnaissante, la gorge nouée, elle parvient à articuler un merci, à peine audible. Monsieur Masneau voudrait entraîner le petit canard transi à sortir de l'eau pour se réchauffer un peu au soleil.
Mais non, c'est bien naturel, voyons. Vous savez, Violette, j'ai déjà édité une œuvre posthume, il y a 20 ans.
Oui, 20 ans déjà. C'était d'ailleurs un auteur de chez nous. Il m'avait fait comprendre que là était son désir.
Oui, son désir, peu avant sa mort. C'est sa dernière volonté, n'est-ce pas?
Le soleil, accepter d'aller au soleil, passer de l'élément eau à l'élément air. Le petit canard doit accepter cette perche qui lui permettra de quitter la mare où évoluent des cygnes majestueux. Pour cela, il faut découdre ses lambeaux de peine étroitement piqués sur son cœur, faire sortir d'elle-même les paroles, les mots, il le faut.
Sa dernière volonté, dites-vous?
Non, monsieur. J'ai trouvé le manuscrit dans ses papiers il y a 3 semaines. Elle est morte en juin dernier, il y aura 3 mois. Le 14, le lendemain de son anniversaire, de ses 50 ans, le lendemain.
La caresse du soleil, ne pas accepter que le soleil fasse des siennes et brûle une peau si fragile.
C'est très jeune, Violette. Un long silence.
Elle voulait mourir à 50 ans.
Le soleil, force vitale, respectait une autre force, celle qui avait animé sa mère tout au long de sa vie, dire les choses. Et puis, monsieur, voyez-vous, il a fallu que je demande l'autorisation à... Enfin, que j'en parle à la personne dont il est question dans le manuscrit. Je ne pouvais pas venir à vous sans lui avoir demandé à lui s'il était d'accord. Et il a accepté.
Dur, très dur cette sensation de regarder le soleil en face.
Non, il ne faut pas pleurer.
Je vois bien que je m'enfonce, monsieur. Je ne sais pas vous présenter les choses.
Oh si, oh que si. Et je dois dire que vous êtes une petite Violette bien surprenante. Surtout, je sens que vous êtes vraie Violette. C'est rare.
Moi? Je ne sais pas.
Ma mère était terriblement vraie. Sa mort a été vrai. La réalité, la vérité, c'est ce que contient ce manuscrit. Vous parlez de la réalité de la vie, de l'histoire de sa vie, n'est-ce pas, Violette?
Violette hoche doucement la tête, tandis que le soleil cède au crépuscule.
Les mots aussi.
Elle ne voulait pas devenir une vieille femme. Elle ne le voulait pas. Enfin, elle voulait partir avec une quantité de neurones encore décente. Elle voulait partir sans trop de rides, sans maladie, sans l'usure. Elle ne voulait pas avoir à prendre en considération une différence d'âge qui... Oh, Ah, je ne sais pas l'exprimer, mais elle, elle l'expliquait très bien, elle savait le justifier. Je comprends, Violette, je comprends. Soleil déclinant, sensation de tissu synthétique mouillé sur la peau, désagréable. Elle en parlait, monsieur, quelquefois, mais je n'y ai jamais cru, vraiment. Je ne croyais pas, je n'avais pas envie de croire à cette histoire de destinée à accomplir avec cette précision-là. Je ne croyais pas qu'on peut programmer sa mort. Elle ne s'est pas suicidée, vous savez. Monsieur Masneau a connu d'innombrables couchers de soleil. C'est avec beaucoup d'attention qu'il regarde celui-ci en compagnie de Violette, en conscience. Maladroitement, il enveloppe le petit oiseau d'un peignoir épais. J'avais compris, mon petit. Je connais, je mesure la force de la pensée. Ce n'est pas quelque chose de très répandu, je dois dire, mais elle existe. Elle est là, la force de la pensée. Oui, c'est juste. Violette sort le manuscrit de son sac. Tenez. Elle le tend à Monsieur Masneau. Elle pense à sa mère et l'une de ses phrases familières lui revient. Une phrase qu'elle disait souvent à la fin du jour, au moment où le soleil se couche. Demain, il fera jour. Tous les jours, il fait jour.
Je veux pas vieillir. Je voudrais retourner en arrière, ce serait moins pire que de me voir ternir à petit feu et de me faire dire que la vie nous apprend à être vieux, comme se mentir. Je veux pas mourir, je veux pas vieillir, avoir la vie en avant de moi sans être pressé. Sans rire, sans rien à cacher, sans trop souffrir. Sans voir mes amis me quitter et puis mourir. Je veux pas vieillir, je veux pas vieillir. Je voudrais courir avec mes petits sans trop souffrir. Les voir grandir, l'esprit tranquille et puis me dire. Ils vont être heureux comme quand je te dis, je veux pas partir. Je veux pas vieillir, je veux encore voir le monde changer, même pour le pire. Les voir sourire, les voir chanter et applaudir. Pour ne pas voir le spectacle se terminer, les gens partir. Je veux pas vieillir, je veux pas vieillir. Retourner sur les genoux de mon père, les samedis soirs durant l'hiver. Jouer à cachette dans le cours d'école, jouer à me prendre pour mes idoles. Jouer au hockey dans mon quartier, aimer l'hiver autant que l'été. Retrouver l'esprit de Noël, tous mes souvenirs et mes babelles. Je veux pas vieillir, trouver une cabane dans les bois.
vieillir. Je voudrais courir avec mes petits sans trop souffrir. Les voir grandir, l'esprit tranquille, et puis me dire qu'ils vont être heureux comme quand je te dis.
Je veux pas vieillir, une chanson interprétée ici par le chanteur québécois Boom Desjardins, et dont il existe d'ailleurs une autre version par un autre Québécois bien connu en France, Rock Voisine. Ne pas vieillir, c'est bien sûr là, par excellence, le syndrome de Peter Pan, comme l'a nommé le psychologue américain Dan Kiley dans les années 1980. Un syndrome, parfois un complexe, qui nous interroge aujourd'hui sur le vrai sens de nos vies. Une question certainement au cœur de beaucoup d'entre nous en temps ordinaire, mais exacerbée sans doute en ces moments si particuliers de confinement, de confrontation à l'inouï qui ébranle au plus profond de chacun et de chacune d'entre nous nos convictions, nos repères et nos relations. Ne pas vieillir, rester en maîtrise de son existence, ne pas lui permettre d'échapper à nos volontés, c'est aussi bien sûr le sens de Violette, la nouvelle que nous proposait Sigrid Morgantini, qui m'a fait l'amitié de me transmettre ce texte. Elle est à l'écoute ce soir et j'en profite pour lui adresser mes remerciements très amicaux. La plume est à vous, se referme pour ce soir. Merci encore à Frédéric Guyon qui a magnifiquement réalisé cette émission dans les conditions que vous connaissez. Passez une belle semaine à l'écoute de Bretagne 5. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à la même heure sur cette même antenne. D'ici là, ne sortez pas et portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.